Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Théophile Gervais est avec nous. Bonsoir Théophile.
Ça va, ça.
Vous êtes le cofondateur et président de Genesis AI, qui est une société robotique full stack internationale. Vous êtes basé à Paris, mais aussi à San Carlos, et vous développez des robots tout mignons, alors qu'ils sont sur des qui sont sur des grosses roues. J'ai l'impression, hein, ils marchent pas comme Figure AI ou Optimus d'Elon Musk, mais malgré tout. Ils sont là pour exécuter des tâches. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, et notamment présentez-nous Neo, c'est comme ça qu'il s'appelle ?
Inno,
pardon. Allez-y.
Oui, on crée des robots généralistes, ou par rapport aux robots industriels aujourd'hui qui font plus ou moins la même chose toute la journée. Là, l'idée, c'est d'avoir un cerveau, un robot vraiment généraliste avec un cerveau qui puisse s'adapter à différentes tâches dans différents environnements, que ce soit dans des environnements industriels comme en automobile, aéronautique, dans des labos pharmaceutiques ou éventuellement à la maison. Et c'est le cerveau d'IA qui lui permet de s'adapter à différentes tâches.
D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le plus compliqué, c'est de donner du bon sens à un robot et apprendre à faire des tâches. Parce que c'est vrai que tous les robots qu'on voit, on était encore à Vivatech la semaine dernière, vous regardez les robots Unitree, ils sont superbes, ils font des trucs incroyables. Mais il y a quelqu'un qui les télécommande derrière, ou alors ils sont programmés pour faire une tâche. Mais ils n'ont aucune intelligence. Vous, l'idée, c'est d'arriver à faire du hardware, mais aussi de donner une espèce de savoir-faire à un robot, c'est ça ?
Exactement. Je pense que ce qui marche vraiment aujourd'hui en robotique, c'est la locomotion, donc avoir un robot qui marche, ou la navigation, faire une carte et se balader dans une scène. Mais ce qui ne marche pas encore, c'est la manipulation. Donc utiliser ses mains pour interagir avec l'environnement, et c'est vraiment comprendre l'environnement et pouvoir interagir avec qui est la difficulté aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se penche dessus depuis le début de la boîte.
Et alors, comment arrivez-vous à arriver à faire ça, en fait, parce que on le voit, on a des boîtes chinoises comme Unitree qui ont du mal, etc. Comment arrivez-vous à donner ce début d'intelligence au robot ?
On a sorti il y a un mois notre modèle Gen. D'ailleurs, on avait des vidéos, je ne sais pas si on peut les montrer, mais l'idée est d'avoir un modèle vraiment généraliste qui puisse s'adapter à différentes tâches dans différents environnements et pouvoir, par exemple, apprendre d'apprendre de données humaines où la plupart des données de manipulation qu'on a aujourd'hui, c'est nous, les humains, qui interagissons avec notre environnement. Donc l'idée est d'apprendre de ces données à travers différents environnements pour créer un cerveau généraliste.
En fait, il est piloté par Gen, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que Gen ?
C'est le nom d'un modèle généraliste qui prend une instruction en langage, comme on peut parler vous et moi, et la vidéo de ce que le robot voit, et après contrôle le robot pour lui dire comment bouger ses bras pour résoudre une tâche.
Donc en fait, ce sont des vidéos que le robot, en tout cas que l'IA du robot, va ingurgiter, et après il va reproduire en fait les gestes qu'il a vus sur cette vidéo, c'est ça ?
Exactement, c'est en collectant vraiment des données à l'échelle d'humains qui faisons différentes tâches qu'on arrive à apprendre un modèle à s'adapter à plein de situations différentes.
C'est hyper intéressant parce qu'on parle beaucoup de Amilabs, la boîte d'IA de World Model de Yann LeCun. C'est un peu son concept, c'est-à-dire que pour que l'IA comprenne en fait un environnement physique, il faut lui montrer non pas que du texte, mais des vidéos avec du son pour qu'elle comprenne son environnement. En fait, vous rejoignez un petit peu son point de vue.
L'idée est que oui, on a vraiment besoin de données physiques pour apprendre un robot à interagir avec le monde physique. Je pense que l'enjeu est vraiment de collecter des données à l'échelle d'humains qui faisons différentes tâches. Et c'est comme ça qu'on apprend un robot à faire des tâches de manière généraliste.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il arrive à faire, votre robot ? Parce que vous êtes tout jeune, hein, vous avez été fondé en décembre 2024. Eno existe déjà ?
Eno existe déjà. Pour l'instant, les deux, on a un peu créé trois briques technologiques de manière séparée. On a le modèle Gen, qui est un modèle généraliste qui peut faire des tâches comme on a sorti des vidéos de cuisine, par exemple, où 4 minutes, on a un modèle qui peut préparer une omelette, couper des tomates de manière complètement indépendante en utilisant des outils.
Mais alors attendez, par exemple, je le mets dans ma cuisine, il va arriver à le faire, ou est-ce qu'il faut quand même qu'il ait une cuisine bien spécifique ?
Aujourd'hui, il nous faut encore des données pour chaque tâche. C'est quelques heures d'apprentissage pour une tâche donnée dans un environnement donné. Mais l'idée de passer les données à l'échelle, c'est qu'on arrive vraiment à pouvoir avoir le cerveau du robot qui s'adapte à une nouvelle tâche dans un environnement avec le moins d'efforts possible.
D'accord. Donc, il arrive à faire des tâches basiques de cuisine, c'est ça ?
De cuisine, on a sorti le modèle est aussi capable de faire des expériences avec des pipettes de manière super précise dans un labo pharmaceutique, par exemple, au millimètre près, ou de câbler ensemble des câbles pour l'automobile ou l'aéronautique, qui est une tâche où il y a 3 millions de personnes qui font ça chaque jour. Et c'est le même cerveau de robot qui fait toutes ces tâches à la fois.
D'accord. Et vous venez d'où, en fait ? Comment avez-vous créé cette boîte-là ? Et quel était votre objectif au départ ?
Je suis français. J'ai rencontré mon cofondateur en thèse sur la côte Est.
Ouais.
Et on a créé la boîte entre Paris et San Francisco. On a aussi un bureau à Londres et à Paris parce que je pense qu'on a des talents extraordinaires en IA, en robotique, en graphique, dont on bénéficie. Et aussi un vivier industriel assez important en Europe. Et la Silicon Valley parce que c'était nécessaire pour l'ambition de la boîte et c'est quand même le centre de l'IA aujourd'hui.
C'est intéressant. Et alors, vous en êtes où? Donc là, la prochaine étape, c'est quoi pour Genesis AI?
Ben là, on a sorti notre modèle, notre robot Eno, qui est notre première plateforme généraliste, et aussi notre simulateur, qui est la manière avec laquelle... un des problèmes de la robotique aujourd'hui, c'est qu'on itère à la vitesse du monde réel, qui est très lent et qu'on ne peut pas paralléliser. Donc, créer des mondes virtuels, c'est ça qui nous permet d'évaluer le robot à travers des centaines de milliers d'environnements en parallèle.
Ouais, en fait, vous créez des jumeaux de ce robot, c'est ça, des jumeaux numériques, c'est
exactement,
ça?
Exactement, des centaines de milliers de jumeaux numériques du robot pour qu'il puisse s'améliorer tout seul. Donc, on a sorti ces trois briques et là, la prochaine étape, c'est d'amener Eno dans des premiers environnements industriels. Donc, on est en train de créer des partenariats avec des industriels, que ce soit en automobile, aéronautique, pharma. La prochaine étape, c'est d'avoir Eno dans des environnements industriels d'ici la fin d'année.
Vous êtes persuadé que la robotique, les robots vont arriver partout, dans l'industrie, mais aussi, pourquoi pas, à la maison. C'est une certitude pour vous?
Je pense qu'à terme, oui, c'est une certitude. On aura des robots à travers tous les endroits où il y a des humains, il y aura des robots aussi. Et il faut que ça soit un futur positif pour tout le monde.
Quand vous voyez, je parlais de Unitree, mais quand vous voyez par exemple Figure AI qui lève beaucoup d'argent, Optimus avec Tesla et Elon Musk... Vous avez quand même des armes pour vous battre, parce que j'imagine que vous n'avez pas la trésorerie de ces boîtes-là. Vous avez quand même des armes pour vous battre?
Ah ben, on a des compétiteurs.
Tout est à construire, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que le futur roi de la robotique n'est peut-être pas encore né, ou ça peut être peut-être.
Je pense qu'on est encore très, très tôt dans cette vague. Il y a des compétiteurs. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs et en Chine et dans la Silicon Valley.
Ouais.
Qui sont super ambitieux. Et je pense que tout est encore à jouer où on a commencé il y a à peine 15 mois et on a sorti des, et le modèle et le simulateur et le robot ont dépassé l'état de l'art dans certains sens. Et donc, on pense que c'est le début de la course et on est dedans.
Quand vous dites, quand on voit Eno, on se rend compte qu'il n'a pas de jambes tout à l'heure. Il fonctionne avec un système de roues. Pourquoi avoir choisi ce point précis?
C'est une bonne question. Je pense que la partie la plus importante d'un robot humanoïde, c'est que les bras et les mains soient humains. Donc, avoir 5 doigts et les mêmes degrés de fonctionnalité que les mains humaines.
Et il a un torse aussi, il a une petite tête, je crois.
Et ben, on n'a pas besoin de tête, en fait, parce qu'on n'a pas de cerveau. Donc, à part les bras et les mains, le reste du corps n'a pas besoin d'être humain. Et la plupart des industriels préfèrent un robot sur roue parce que c'est plus safe et plus facile à déployer.
Il a une petite tête, en fait. On peut imaginer, après, c'est de l'anthropomorphisme, mais on se dit que le dessus, en fait, de son torse.
Il y a quand même une caméra.
Ouais, c'est ça. Ça fait, ça fait un peu une petite tête, quoi, en quelque sorte. Et demain, la prochaine étape pour vous, c'est quoi? C'est donc de commencer par l'industrie, et puis après, d'arriver, pourquoi pas, dans le monde du domestique, et d'avoir
un
robot à la maison.
Et éventuellement, peut-être les services dans des hôtels, des hôpitaux, restaurants, et éventuellement à la maison.
Ça coûte cher, non, tout ça?
Pas tant que ça.
Vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait coûter dans quelques années, un robot puis la question subsidiaire, j'ai envie de vous poser, comment il va apprendre, en fait? Parce que finalement, chaque robot, demain, quand on l'aura à la maison, il aura des tâches bien spécifiques.
Sur ce que ça va coûter, je pense qu'on en parlera quand on sort le robot en fin d'année pour le déploiement commercial. Mais comment il va apprendre? L'idée, c'est vraiment de passer les données à l'échelle. Donc, c'est utiliser des données d'humains à travers plein d'environnements pour avoir un modèle vraiment généraliste en passant ces données à l'échelle.
D'accord.
De la même manière qu'on a pu le faire pour les modèles.
C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé d'apprendre quelque chose que je lui montrerai quand il arrivera à la maison, en fait.
Exactement. C'est comme le Cloud Code aujourd'hui où une nouvelle base de code, nouveau problème, ça marche sur ce nouveau problème sans avoir besoin d'être entraîné sur ce problème. Parce que les robots en arriveront là dans les prochaines années.
Vous parliez tout à l'heure de l'excellence française dans l'IA. Vous, justement, c'est pour ça que vous êtes basé aussi ici en France? C'est parce qu'on a un vrai savoir-faire?
Je pense qu'on a des talents extraordinaires en IA, en robotique et en rendu graphique aussi, et en simulation physique. Donc c'est pour ça qu'on est basé là en partie.
Très bien. Bah écoutez, formidable. Ça donne envie en tous les cas de découvrir la suite de tout ça. La prochaine étape pour Genesis AI, c'est quoi?
Et la prochaine étape, c'est des partenaires industriaux en automobile, aéronautique et pharma, entre autres. Donc, si vous voulez bosser ensemble sur les prochaines années, on aimerait entendre parler.
Vous recrutez en ce moment?
On recrute aussi beaucoup en IA, robotique et graphique, à Paris et ailleurs.
Et levée de fonds bientôt prévue ?
On lève toujours en start-up.
Bon, bah, très bien. Ben, merci beaucoup Théophile Gervais. On va vous suivre de près. Et la prochaine fois que vous venez sur le plateau de Tech&Co, venez avec Inno, ça serait cool.
Ça serait cool, avec plaisir. Merci François.
Eh bien voilà. Voilà, il y a de très belles initiatives françaises dans le monde de la robotique. Théophile Gervais, cofondateur et président donc de Genesis AI. Et tout de suite, direction la rédaction de BFM Tech.